Voilà, je ne sais pas auquel des deux intervenantes, le prof d'Ancien Testament et puis le biologiste, mais il y a quelque chose dans le premier chapitre de la Genèse qui m'intrigue, c'est quand il est dit vraiment à plusieurs reprises, une dizaine de fois, que Dieu a créé selon son espèce. Et comment il faut comprendre ça? Est-ce qu'il a créé directement la diversité ou bien j'ai de la peine à comprendre ce que ça sous-entend?
Je peux dire un petit peu. Alors, Genèse 1, c'est carrément, on pourrait carrément faire une session spéciale dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a tout un truc là-dessus dans un autre livre du réseau des scientifiques évangéliques, où il y a pas mal de détails, si jamais ça rend service. Mais sinon, je pense que la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le mot espèce en hébreu, hein, n'est pas transposable immédiatement, pour dire, c'est la même chose que les espèces au sens biologique. Donc, qui sont définis au sens le plus strict par la non-hybridation possible ou non-fécondation entre êtres humains. Voilà. Ils sont pas interféconds. Voilà, merci Nicolas. Et donc ça, il y a rien dit que c'est la même chose en fait. Hein. En hébreu, il y a vraiment aucune raison de penser ça. C'est le sens, je pense, le plus basique de les différentes sortes. Donc le mot espèce est un peu piégé en français. Donc c'est différentes sortes. Donc Dieu crée les différentes sortes de poissons, différentes sortes d'animaux terrestres, etc. Après, il reste ça cause quand même problème si on se dit que si on pense que la description de Genèse 1 est une description chronologique où jour après jour, ou à la limite période après période, Dieu crée d'un coup les différentes espèces qui existent. Mais ça, je peux pas le démontrer. Mais j'avais essayé de le montrer dans le livre du RSE, mais c'est pas moi qui l'invente d'ailleurs, c'est pas nouveau. La lecture la plus juste du texte, me semble-t-il, montre que l'intention de l'auteur n'était pas chronologique, mais qu'il a plutôt rangé dans une série de jours, qui d'ailleurs sont présentés de manière symétrique, les différentes catégories de la création que Dieu a disposées. Et c'est présenté de manière harmonieuse, mais sans réel souci chronologique. C'est toute une étude à faire, je le dis là, je ne le démontre pas. Auquel cas, déjà, il y a une bonne partie du problème qui est résolu. Alors après, il reste quand même la question que si Dieu a créé toutes les sortes de poissons, toutes les sortes d'animaux, etc., est-ce qu'il les a créés d'un coup ou quoi? Et ça, je pense que dès lors qu'il n'y a pas de chronologie stricte dans le texte, on ne nous le dit pas. L'idée, simplement, de dire, voilà, vous voyez, toute la création, eh bien, Dieu a créé tout ça, toutes ces espèces. Mais à mon avis, c'est du point de vue de l'auteur de ce texte-là, une sorte d'instantané de la création, en disant, vous voyez, tous ces types d'oiseaux, tous ces types de mammifères, etc., Dieu les a créés. Comment, quand, en quelles étapes, par quel processus, ça, je pense pas qu'on nous le dise. Donc, si je dis à mon enfant, bon, qui est un peu petit, mais voilà, tu vois tous les animaux qu'il y a aux autres, toutes les espèces, c'est Dieu qui les a créées, que ce soit de manière immédiate, ou par un processus, ou en passant pour une évolution, ou quoi, le texte ne le dit pas. Ça me permet, pour moi, ça convient au texte.
Puis j'ajoute juste une toute petite chose, c'est que on ne vit pas dans un monde où tous les animaux, justement, on ne vit pas dans un monde où ils peuvent se reproduire tous de manière uniforme. Où on est vraiment dans un monde où on a des cloisonnements très forts entre les espèces. Donc pour moi, quand je vois ce texte, Dieu a créé le monde selon chaque animal selon son espèce, c'est ce que j'observe dans la nature. Des cloisonnements très forts entre les espèces, définition scientifique, et avec ce que vient de dire Mathieu, j'ai aucun problème avec ça. Ce que je peux juste ajouter aussi, c'est que des créations de nouvelles espèces, on en a plein d'exemples, ceux qui font, qui sont plutôt dans la botanique, créent des espèces en multipliant les chromosomes très facilement. Et donc aboutissent à des espèces qui sont plus interfécondes entre elles. On a d'autres exemples aussi où on a pu voir des spéciations très très rapides se passer, très bien documentées. On sait qu'il y a des lacs par exemple qui sont asséchés en Afrique il y a quelques milliers d'années, qui ont été recolonisés par une ou deux espèces de poissons qui ont ensuite une radiation de spéciation et plein 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 d'espèces en un laps de temps relativement court. Voilà, donc voilà ce que je peux dire là-dessus.
tu me fais penser que j'ai pas dit. C'est vrai que dans la Genèse, il y a aussi l'accent, quand on dit selon son espace, l'accent sur l'ordre. Et dans Genèse 1, le processus, le mouvement du texte, c'est celui d'une différenciation progressive des espaces dans lesquels vont évoluer les êtres, et puis des êtres eux-mêmes. Donc il y a une grosse insistance sur cette notion d'ordre de la création. Merci Nicolas.
Merci. Question suivante.
J'ai une question pour Mathieu Richelet. J'ai bien compris le concept d'humain qui représente en fait Dieu sur terre, mais ça me faisait repenser à des passages du texte biblique où il disait que Dieu est descendu dans le jardin d'Éden sur terre pour vérifier où étaient Adam et Ève qui se cachaient. Il était aussi descendu pour voir si Sodome et Gomorre étaient au summum de leur péché. Puis à un moment, on lit aussi qu'il a lutté avec Jacob, et je me suis dit, est-ce que ce ne sont pas des indices aussi où quelque part, finalement, on sait que Dieu, c'est un esprit qui se mouvait aussi au-dessus des eaux dans Genèse, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il a aussi une représentation, quelque part, réellement à notre image, ou, enfin, un peu comme nous, je dirais, physiquement aussi, quelque part.
Alors, si je réponds de manière générale, mais bon, tu le sais, hein, je vais te dire Dieu est esprit, c'est une vérité générale, etc., donc il n'a pas de corps. Hein. Alors après, dans les différents passages qui nous interrogent quand même, hein, comme tu viens de le dire, il y a une partie qui est sans doute de l'ordre du type de formulation, et parfois on dit que ce sont des anthropomorphismes, donc des façons de parler de Dieu, un peu comme on parlerait d'un homme, comme quand on dit la main de Dieu est sur une personne ou quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est une image, c'est une façon de parler. Alors qu'on dit Dieu descendit pour voir la tour de Babel, c'est sans doute ironique parce que eux ils essaient de monter et puis en fait c'est une tour qui prétend toucher le ciel, mais en fait Dieu est quand même obligé de descendre pour les voir. Donc il y a une part comme ça qui est simplement du registre du langage, de la rhétorique, de l'expression. Et puis après il y a les cas vraiment avérés, disons, où on a l'impression que c'est quand même Dieu qui est présent sur terre ou quelque chose comme ça. C'est quand il est question du fameux ange de l'Éternel. Et là ça reste un petit peu mystérieux. Donc, j'ai pas forcément de réponse très précise, mais si ce n'est de dire que de la même manière que des anges se présentent dans l'Ancien Testament à des personnes sous une forme humaine, puisqu'on les accueille chez soi, de manière hospitalière, etc., de la même manière, si Dieu veut apparaître à des personnes sous une forme humaine, il le peut, sans que cela veuille dire que, fondamentalement, quand il est chez lui, si je puis dire, il a un corps. Voilà. Donc, c'est aussi le jeu de la manière dont Dieu veut apparaître aux personnes.
Il y avait une question.
Merci. Quand on dit que Adam et Ève étaient donc en discours avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce n'étaient plus des chimpanzés. C'était l'homme et la femme. Donc, il y avait... Est-ce que c'est... deux chromosomes dont on parlait ce matin, ces deux chromosomes en plus que l'homme a par rapport au est-ce que ça a apporté la parole et que Dieu à ce moment-là a pu dialoguer avec l'homme?
Alors, première chose que je dois dire et qu'il faut répéter souvent, l'homme ne descend pas du singe, ne descend pas du chimpanzé. L'homme a un ancêtre commun avec le chimpanzé qui a vécu, comme j'ai dit, à peu près il y a 6 millions d'années. Donc il n'y a pas à chercher une différence génétique avec le chimpanzé actuel qui pourrait... expliquer quelque chose de particulier dans le cas précis que vous avez dit. Ces deux chromosomes, donc ce chromosome en plus qu'il y a chez le chimpanzé, qu'il y a eu cette fusion ensuite qu'on retrouve ensuite dans notre chromosome, n'est apparemment pas du, enfin il n'y a pas de lien avec la parole, puisque le gène que j'ai mentionné aussi qui était lié à la parole se trouve ailleurs dans le génome. Donc non, il n'y a pas de causalité ou d'une cause génétique à cet épisode que vous mentionnez, qui de nouveau peut-être ne devrait pas être lu et perçu comme un événement de manière scientifique, mais comme peut-être de manière figurée également.
C'est juste une petite question pour clarifier en fait par rapport à la Genèse, parce qu'il est question des 7 jours où justement le 7e Dieu se repose, et là du coup ce serait en fait chaque jour ce serait symbolique en fait d'une durée X, enfin alors, où il n'y a pas du tout de chronologie, enfin c'est.
Oui, est-ce que donc, absence de chronologie dans la Genèse, est-ce que c'est purement symbolique? C'est ça la question? Ouais, à quoi correspondent les 7 jours?
J'ai combien de temps pour répondre? Parce que normalement, j'avais fait ça à Paris en 1 heure, je crois. Et j'avais largement dépassé le temps qui m'avait été accordé. Donc, je peux juste dire en résumé, et je vous donne pas la démonstration. Mais il y a une lecture qui est littérale, on dit voilà, 6 jours de 24 heures de création et puis après le repos. Il y a une lecture où on dit ce sont des périodes, des jours périodes, mais ça marche pas vraiment en fait. Même si on dit c'est pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, en fait ça marche pas parce que le mot jour à lui seul ne veut pas dire une longue période dans l'Ancien Testament. Ça devient le cas quand on dit en ce jour-là, pour désigner une période qui arrivera à un moment donné dans les jours futurs. Mais c'est quand c'est pris dans cette expression-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Au niveau du vocabulaire, ça ne tient pas vraiment, disons, pour résumer. Alors après, ça ne tient pas non plus dans l'ordre de comparaison avec les étapes scientifiques, d'après ce qu'on me dit. Et puis, en fait, l'interprétation que je préfère, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventée, ça fait un moment, c'est celle qui consiste à dire « regardez bien le texte ». Finalement, si on se dit que c'est des jours, il est vraiment fait référence formellement à des jours normaux, qui devraient être des jours de 24 heures, on décrit vraiment, etc. Parce qu'on dit, il y a un soir et un matin, ça c'est ce qui se dit typiquement au printemps. Mais en même temps, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que le soleil apparaît au 4e jour. Donc on se dit, mais alors avant on peut pas avoir des journées, des vraies journées, alors que normalement c'est des journées de 24 heures. Il suffit qu'on devient fou. Et en fait, l'interprétation la plus logique, c'est si on se dit, mais alors, en fait, regardez un petit peu, le premier jour, ça correspond au jour 4. Premier jour, Dieu crée la lumière. 4e jour, il crée les lampes, enfin, les luminaires. Ceux qui vont avoir exactement le même effet qu'au jour 1. Au jour 1, on dit Dieu sépare la lumière des ténèbres, et puis il y a le jour, et du coup, il y a la nuit. Mais en fait, au jour 4, on dit exactement la même chose comme le but de la création des luminaires. Dieu l'écrit pour séparer la lumière, les ténèbres, le jour, la nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 premiers jours? Est-ce que Dieu avait fait son travail ou pas au premier jour? En fait, on peut tout mettre en symétrie comme ça, et on voit qu'on a d'un côté les 3 premiers jours où Dieu crée, grosso modo, je simplifie, mais les espaces, la mer, les continents, etc. Et dans les 3 jours suivants, il crée les êtres, même les mobiles, même le soleil et la lune à la limite, puis les animaux, etc., qui vont habiter les différents espaces. Et en fait, on se rend compte que tout est disposé de manière symétrique et que c'est ça le principe de répartition au sein des jours. Donc, en fait, une lecture littérale peut pas vraiment tenir, une lecture comme période peut pas vraiment tenir, et à la fin, on se dit, mais alors finalement, on a un Dieu qui crée en 6 jours, qui se repose le 7e, mais l'auteur, manifestement lui-même, ne prenait pas ses jours au pied de la lettre. Il représentait les choses comme ça, c'est le dessin, c'est la peinture qu'il fait, mais il prétendait pas que c'était une vidéo en temps réel de ce que Dieu a fait. C'est simplement ce qu'on appelle un anthropomorphisme. On a représenté Dieu en train de créer le monde comme un artisan qui fait bien son travail pendant une semaine de travail, y compris le dimanche où il se repose, quoi, si je puis dire les choses. Donc du coup, c'est une version, alors on dit que c'est un cadre littéraire cette semaine, une façon de présenter à la limite de la poésie Dieu qui travaille pendant, qui présente, qui crée le monde, et puis qui finit par se reposer. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de chronologie absolue dans la réalité. Mais il y a une chronologie dans la peinture qui est dessinée. C'est comme si on avait dessiné un beau tableau, mais sans prétendre que tel objet, c'est exactement la bonne place, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est ce que je peux faire en 5 minutes.
Merci. Alors, encore d'autres questions?
Oui, on a parlé de métaphore, mais là je suis tout à fait d'accord. Mais mon problème un petit peu, c'est à quel moment est-ce que la métaphore s'arrête pour devenir histoire? Il me semble qu'il y a le potentiel là pour faire un gros mélange de ce qui est métaphorique et historique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, voilà, là ça devient une question. oui, non, mais évidemment, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des indices, des éléments qui conduisent à penser qu'une partie de ce que j'appelais les motifs du texte, donc ça peut être des éléments de la décoration, l'arbre de la vie, ça peut être des personnages qui interviennent, ça peut être comme le serpent, ça peut être des petits éléments narratifs, une sorte, pas d'événement, mais de partie de l'histoire, la manière dont ça se déroule, un serpent qui trompe, par exemple, qui induit en erreur. Il y a des éléments comme ça dont on a des raisons, des éléments, oui. Des raisons assez justes de penser qu'ils peuvent être de l'ordre de l'image. Tout en cachant éventuellement derrière quelque chose qui est réel. Le serpent, je pense, c'est vraiment le diable, donc c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et puis en même temps, il y a des éléments qui, comme j'ai essayé de le signaler tout à l'heure, ça revient un peu à ce que je viens de dire, sont de l'ordre de la charpente historique sous-jacente au texte. Et le challenge, c'est pas tellement de dire tout est imagé ou tout est historique, mais de discerner entre les deux. Et il me semble que ça peut se faire. Ce qui se passe, c'est que contrairement à une lecture un peu habituelle ou intuitive que nous avons du texte, il y a plus d'éléments que ce qu'on aurait attendu qui sont de l'ordre de l'image. Mais il reste un fond historique qui, à mon avis, est fondamental à maintenir, parce que c'est ce que dit le texte, à savoir l'existence des périodes Adam, Ève, le diable, le Seigneur, et l'événement qui est celui de la chute, qui, même si c'est pas un arbre au sens littéral avec des fruits au sens littéral, cache quand même une volonté de, selon une des interprétations, peut-être la meilleure, s'émanciper de Dieu quant à la relation au bien et au mal. Donc il reste quand même des choses comme ça. Mais le discernement entre ce qui est d'ordre métaphorique et d'ordre historique, il est très important, vous avez raison de le signaler, ça serait une erreur que de dire, ce qui me paraît un petit peu, à moi, esprit moderne, fantaisiste, je dis c'est une image, et je m'en débarrasse comme ça. Ou alors ce qui collerait pas à la science, allez, je dis que c'est une image, et puis je suis tranquille. Ça serait pas juste, si c'est votre préoccupation, je pense que c'est très important de le signaler. Mais il y a quelques éléments qui conduisent quand même à discerner. On peut toujours débattre du détail, mais le fait que ça soit des choses qu'on retrouve ailleurs et qui semblent être reprises de manière intelligente et retravaillées, ça, c'est quand même un indice intéressant. À moins que les auteurs bibliques aient cru que des auteurs mésopotamiens étaient inspirés ou avaient eu même une révélation, mais c'est pas évident. Le fait qu'il y ait des choses qui soient ensuite dans le reste de la Bible utilisées de manière extrêmement souple, qu'on ait pris manifestement comme des figures... Vous voyez, ce genre de choses. Donc, il y a quelques éléments comme ça qui aident à discerner. Là, j'ai fait un petit peu à l'oral. On pourrait regarder plus en détail, en fait. Voilà. J'espère que je réponds un peu à la question.
Oui.
Ah, merci.
Bon, alors, Mathieu Richel a bien mis à contribution. Peut-être qu'il y a aussi des questions pour les intervenants plus scientifiques. Enfin, dans ces branches-là.
J'ai une question par rapport au modèle d'Adam personnage apparaissant vers 6 ou 8 000 ans avant nous. Est-ce qu'on peut imaginer que les peuples sémitiques descendent de cet Adam? Après, il y a Noé, il y a quand même un certain nombre de généalogies qui tentent à établir une filiation entre les différentes nations qui entourent Israël et Noé. Est-ce que du point de vue génétique, on a essayé de corréler ça?
Non, on peut absolument rien faire dans ce sens-là parce qu'on n'a pas accès aux aux données, au matériel génétique de ces individus en particulier. Bien sûr que les nations qui sont dans cette région-là, enfin en tout cas les contemporains actuels, ont une ressemblance génétique comme partout sur la planète où il y a une courte distance géographique. Plus les distances sont courtes, plus on a une ressemblance génétique généralement. Pas partout. Hein. En Afrique, par exemple, on a une très forte diversité. On peut très bien trouver certains villages qui sont où les individus sont extrêmement éloignés génétiquement, peut-être parfois plus qu'entre un village africain et certains Européens. Mais ça, c'est dû à cette diversité ancestrale des populations africaines. Mais en Mésopotamie, dans la région du croissant fertile, on a une homogénéité génétique, je veux dire, attendue. Mais on peut malheureusement, génétiquement parlant, rien dire sur ces descendances, ces filiations. Maintenant, elles sont, je pense, en tout cas du point de vue historique, généalogie dans la Bible, elles sont attestées, j'imagine.
Puisqu'on est sur ces questions génétiques, peut-être une précision. Pour ce qui est de ces traces d'hybridation entre l'espèce humaine et des espèces voisines, est-ce que c'est des traces de populations qui ont vécu ensemble pendant un certain temps ou d'événements isolés qui ont laissé du matériel génétique qui est... Est-ce qu'on arrive à le mesurer ?
On ne peut pas le mesurer précisément. Par contre, bien sûr, il y a plein de méthodes statistiques qui permettent de dire que si on observe ce pourcentage quand même relativement significatif de quelques pourcents, mais c'est quand même pas mal, très très probablement, ça signifie qu'il y a eu un assez grand nombre d'échanges génétiques. C'est pas seulement un seul couple tout d'un coup qui s'est retrouvé dans les buissons et puis qui ensuite... ça s'est diffusé partout, mais il y a eu vraiment un grand nombre de ces événements de croisement. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des méthodes qui permettent un petit peu d'estimer ce nombre d'événements, mais elles ont un intervalle de confiance, une incertitude qui est assez large. Mais voilà, il y en a quand même un certain nombre.
Pour rebondir sur cette question, c'est clair qu'on peut aussi avoir des échanges génétiques par rétrovirus, excision et infection d'autres individus, etc. Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre des échanges génétiques par virus ou bactéries interposées ou bien vraiment par échange humain, quoi?
On peut tout à fait. On a effectivement certaines preuves. Alors c'est pas vraiment mon domaine, mais je sais qu'il y en a. J'avais lu un petit peu là-dessus d'insertion dans le génome de nos ancêtres. Enfin, à un moment donné dans l'évolution, il y a eu des insertions de virus, mais on les reconnaît assez bien parce qu'elles ont des séquences particulières. Mais là, en l'occurrence, pour ces ressemblances entre les espèces, c'est vraiment des séquences dont on sait qu'elles n'ont rien à voir avec des insertions de virus et des endroits dans le génome, des marqueurs qui sont dans des endroits pour la plupart qu'on connaît assez bien et puis dont on peut dire vraiment, je pense, il faudrait que j'aille revoir un petit peu les papiers, mais en tout cas pour la grande majorité que ce n'est absolument pas, on sait que ce n'est pas des insertions de virus, donc il n'y a pas eu... sous-jacent à votre question, évidemment, c'est est-ce que on pourrait observer ce qu'on observe sans vraiment qu'il y ait eu des échanges physiques, mais via un élément externe qui pourrait être un virus, une bactérie ou autre. Mais non, c'est pas le cas.
Encore une question pour Mathieu Richel. Désolé, parce qu'il y a eu deux exposés théologiques, alors ça fait forcément plus de questions dans ce sens. En fait, j'avais une question sur Adam. On a parlé pas mal d'Adam. Dans le texte hébreu, il y a des fois Adam avec article ou sans article. à quoi ça pourrait correspondre, peut-être en réponse aussi au niveau scientifique. Et puis, ma deuxième question, c'était, il y a deux fois où il est dit qu'Adam était placé dans le jardin, Dieu plaça Adam dans le jardin, ça peut correspondre à quoi, au niveau aussi paléontologique, enfin, scientifique et tout ça, au niveau du texte, s'il y a peut-être des résonances ou pas.
C'est un ancien étudiant, alors je peux le taquiner. Et inversement, je cherche l'endroit où j'ai noté à partir de quand il y a un article. Alors, je sais une seconde, parce que je ne connais pas ça par cœur. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la première occurrence où on est sûr qu'il y a un article, parce que ça dépend, vous savez, il n'y a pas les voyelles dans le texte hébreu d'origine, et ça se voit normalement, enfin, il peut y avoir des ambiguïtés s'il y a un article, s'il y a une préposition. Rappelle-toi les cours d'hébreu. Bon, et donc l'endroit où on est vraiment sûr qu'il n'y a pas d'article, et donc que c'est pas l'homme, au sens un homme, quoi, si vous voulez, au sens de, non pas l'individu Adam avec un grand A, mais l'homme, l'humain, le premier endroit, ça serait chapitre 4, verset 25. Donc c'est vraiment à la fin du chapitre sur Cain et Abel. Cependant, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a un article aussi en Genèse 4 au verset 1, où là on est sûr que c'est la personne, monsieur Adam. Donc c'est pas un critère à 100%, si tu veux. Hein. Et en fait, tu vois, les versions hésitent. Si tu prends la NIV, la fameuse version anglaise, il commence à parler du prénom Adam, chapitre 2, verset 19. Si tu prends la Tob ou la version du Semeur, chapitre 3, verset 17. Si tu prends la Bible de Jérusalem, chapitre 4, verset 25. Donc en fait, les gens hésitent. C'est pas un critère très très sûr. Et ta deuxième question, c'est sur le fait que Adam soit placé dans le jardin. Et qu'est-ce que ça signifie? Je peux dire une seule chose, c'est que, et je trouve ça intéressant, c'est que le fait d'être dans le jardin n'est pas le tout premier état de l'homme. On voit d'abord que Dieu, regardez le texte, hein, il tire l'homme du sol, même si c'est une image, et il le place dans un jardin pour cultiver la terre. Et une fois qu'il est expulsé, Dieu le replace pour cultiver la terre, hors du jardin, il l'expulse, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Donc en fait, le jardin, ça a été un épisode, mais ça n'était c'était pas l'état primordial, c'est pas l'état final non plus. Mais l'homme n'était pas immédiatement dans le jardin. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau de l'histoire. Est-ce que le jardin est un symbole ou pas? On peut discuter. Mais est-ce que c'est vraiment un lieu ou est-ce que ça évoque une situation entre Dieu et l'homme? Mais ce n'est pas l'état tout à fait primordial. C'était peut-être une grâce donnée à l'homme. Au premier homme, parce que ça n'a pas duré longtemps. Enfin...
C'est intéressant en fait parce que si on voulait ce que tu veux dire, ce que tu viens de dire, Mathieu, en fait, ça, on pourrait le traduire par le fait qu'à un moment donné, si on considère toujours le modèle où l'homme tout d'un coup a changé de statut spirituel à peu près à la période du néolithique, hein, c'est un des modèles autour de 10 000 ans, eh bien finalement il y avait des hommes avant. En Afrique, à ce moment-là, il y a des hommes partout, mais à un moment donné, ben, l'homme, l'humain, il est dans une partie localisée de cette région qui est la région de la Genèse, dans ce jardin, et puis ensuite, il y est expulsé, et puis il va voir ailleurs, il va, etc. Donc, voilà, on pourrait imaginer que là, il y a peut-être un tout petit pont à faire avec le fait que voilà, il y avait des humains ailleurs avant. À un moment donné, ils étaient à un endroit particulier, dans cet endroit, à cette période que Dieu s'est révélé. Et puis ensuite, eh bien, ils ont aussi continué leur chemin ailleurs.
Dans le langage biblique, c'est terrible, hein, mais ça ne serait pas des humains techniquement, ceux qui sont avant, puisque c'est là qu'on a le premier humain, image de Dieu, etc. Bon.
C'est juste. Peut-être je peux poser une question comme ça, c'est une table ronde. Mais par rapport à votre question de l'utilisation des articles, je me demande si on devrait poser des questions en termes de caractère de Dieu. Avec qui est-ce qu'on interagit? Et ça me semble que l'utilisation des articles et ce qu'on voit dans Genèse et l'interaction homme, dans le sens plus large, et Dieu individuel. Il nous traite comme individuels et pour moi, je me demande l'avis des autres, c'est ça qui est différent par rapport au caractère de Dieu qu'on voit dans la Bible, par rapport aux autres théologies. Et je me demande si ça, c'est l'aspect important dans cette utilisation.
Je suis désolé de faire que parler, mais... sur le point très précis technique, l'article, c'est vrai que c'est juste une façon de dire l'humain ou bien Adam. Ça fait c'est un critère qui n'est pas absolu, mais qui sert à distinguer entre les moments où on parle de la personne individuelle. Mais après, sur la relation entre Dieu et l'homme, là, c'est sûr que c'est ce qui est marquant dans le début de la Genèse, c'est qu'on a une interaction, en plus, qui est naturelle. On n'a pas besoin de faire des sacrifices, d'aller au temple, etc., entre Dieu et l'homme. Après, je ne sais pas si c'est pas forcément quelque chose qu'on peut repérer dans l'histoire humaine. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour les autres spécialistes.
C'est vous.
Moi, c'est plus une question un peu générale sur la nature du chrétien plutôt que la nature de l'homme. Mais on peut imaginer que bon, si le chrétien est fait en l'image de Dieu, donc j'ai compris qu'il n'y avait pas une ressemblance dont on sait spécifiquement sur quels aspects elle porte. Mais vu que Dieu a des pouvoirs extraordinaires, surnaturels, est-ce que nous aussi on est appelé, enfin, à avoir de tels pouvoirs, vu que aussi Jésus a dit dans les, enfin, a dit aussi que justement on était appelé à faire de grandes choses, que dans les actes il y avait des miracles, etc. Est-ce que nous, dans notre nature de chrétien, on a une réponse à ça?
La similitude entre notre mission et ce que bon les miracles etc. fait par les apôtres encore aujourd'hui et ce qu'a fait le Seigneur, c'est posé en termes de comparaison entre la mission du Seigneur sur terre et la mission des chrétiens sur terre. Donc c'est pas lié directement au fait d'être image de Dieu ou etc. C'est peut-être plus alors je sais même pas si c'est l'identité chrétienne parce que c'est un moyen pour évangéliser finalement. Donc voilà, je n'ai pas de grande réponse à faire.
Oui, à propos de l'hominisation, on fait souvent remonter l'hominisation aux premières sépultures. Puis là, quand même, il semble bien que les premières soient des Néandertaliens. On a trouvé du pollen sur les os des Néandertaliens. Ça veut dire qu'ils avaient eu un enterrement avec des fleurs. Et puis... on fait aussi remonter l'hominisation aux premières manifestations artistiques. Et ça, c'est aussi beaucoup plus vieux que le néolithique. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, hein? C'est de l'ordre de 100 000 ans ou de 40 000 ans pour les manifestations artistiques, les peintures rupestres, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet?
C'est effectivement une critique. Par exemple, d'Henri Blocher, dans le livre « Adam qui étude », de ce modèle Ovo Divinus, c'est qu'effectivement, il y a 40 000 ans, on a des, ou 35 000 ans, Grotte Chauvet et autres, on a des représentations, des peintures qui semblent quand même être le fruit d'une d'un aspect artistique assez fort. Mais... voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que certainement, oui, ils avaient forcément ces aspects-là. Maintenant, sur les sépultures, pour les Néandertals, c'est vrai que on a des preuves qu'ils enterraient leurs morts. Maintenant, on n'a pas, je crois, des preuves formelles qui avaient plus que simplement l'enterrement physique. Alors, peut-être qu'on a retrouvé du pollen, mais il faudra déjà être sûr que c'était bien intentionnel de leur part. Et si ça l'était, est-ce que c'était vraiment à mettre au niveau de, voilà, d'un comportement vraiment très particulier et avancé du point de vue de des sépultures, ça je ne sais pas, mais en tout cas jusqu'à maintenant je ne crois pas qu'on ait vraiment de preuves fortes que les Néandertals avaient vraiment la notion de sépulture et donc peut-être d'un au-delà. C'est pas parce qu'ils enterraient non plus leurs morts qu'ils avaient forcément une perception de l'au-delà ou d'un dieu ou autre chose, pas forcément du tout. Donc voilà ce que je peux dire, c'est pas non plus mon domaine particulier, donc je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vrai, c'est une des critiques qu'on peut faire à ce modèle du néolithique. Moi, ça, personnellement, ça ne me dérange pas, parce que je pense avoir des... Voilà, Homo sapiens a eu effectivement avait des habiletés cognitives très avancées avant le néolithique, hein, il a fait plein de différents instruments, plein de choses. Ça t'enlève rien, en fait, qu'à un moment donné, selon ce modèle... Dieu s'est révélé, on a changé de statut spirituel. Est-ce qu'il y a eu des changements autres, cognitifs, physiologiques, physiques, en même temps que ce changement spirituel? Peut-être, mais on ne sait pas.
Je me permets de poser moi-même aussi une question, justement par rapport à ce modèle de l'Homo Divinicus. Est-ce qu'il n'y a pas un peu le problème... justement, des autres populations humaines qu'on reconnaîtrait aujourd'hui biologiquement comme des Homo sapiens qui étaient dispersés autour de la planète, et puis où on dit, eux, ce n'est pas encore des humains au même sens que nous, au sens de l'image de Dieu, parce que ce n'est pas eux le groupe à qui Dieu s'est révélé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de refaire des plus ou moins humains et des moins humains au sein de notre espèce, ce qui rappelle des mauvais souvenirs?
Non, alors ce modèle, il doit, comme je l'avais dit, et c'est aussi une peut-être des critiques qu'on peut lui attribuer, mais il doit faire l'hypothèse que Adam était le chef fédéral de toute l'humanité et que la chute a entraîné par fédéralisme, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en Suisse peut-être, mais en tout cas, il y a une sorte de contamination latérale. Instantané, je ne sais pas exactement. Et je crois que, apparemment, hein, le texte, le texte ne l'exclut pas. Donc voilà, mais on doit supposer ça pour ce modèle-là.
Est-ce que finalement, parce que ça dépend un peu si on se représente les choses en termes de une sorte de déclic à partir duquel certains hominidés semblables au néophysique, parmi eux, il y en a que Dieu transforme d'un coup en être spirituel, ou si le fait d'être humain est le résultat d'un processus continu, et au-delà d'un certain seuil, vraiment on peut parler d'être humain. Est-ce que dans le modèle de je ne sais pas du tout, au niveau du néolithique, il y a des dates différentes selon les endroits de la planète? Mais est-ce que ça serait ça, les êtres humains? Est-ce que...
Non, alors il y a 10 000 ans, il y avait des humains partout sur la planète, bon, sauf en Antarctique, bien sûr, mais il y avait des humains un peu partout sur la planète, bon, pas sur certaines îles non plus, je dois être précis. Mais c'était vraiment apparemment des humains, c'était des Homo sapiens, clairement. Les Homo sapiens vraiment qui nous ressemblaient étaient là depuis 100 000 ans. Donc là, on est à 10 000 ans. Ils étaient partout. Ils avaient des technologies et des avancées cognitives qui étaient semblables à celles qu'on pouvait trouver à ce moment-là dans certaines autres parties du globe. Bien sûr, l'agriculture n'est pas arrivée chez eux tout de suite. Hein. Il a fallu plusieurs milliers d'années aussi pour qu'elle se répande de manière culturelle aussi vers toutes ces populations. Mais voilà, en tout cas, ce que nous disent les données, c'est qu'il y avait des Homo sapiens comme nous, qui avaient des facultés cognitives, en tout cas de celles qu'on connaît, comme nous, un peu partout. C'est pas, c'est, faut pas voir que, pas voir tout ça comme des espèces dominées de d'autres sous-espèces qui étaient beaucoup moins évoluées et puis que qui auraient disparu ensuite par la suite. Hein. On est quasi certain que les, enfin on sait que les populations actuelles d'Indiens d'Amérique du Sud sont les descendants physiques des premiers Amérindiens qui ont colonisé le continent il y a de ça 15 000 ans.
Et du coup, la difficulté du modèle que tu adoptes, l'Homo divinus, se pose de toute manière, ça soit néolithique ou 100 000 ans avant, il y a de toute manière le problème, non? Le fait que, puisque l'humanité un peu partout en dérive.
Oui, alors il y a ce potentiel problème que si Adam est le premier Homo theologicus qui a reçu la révélation, et qu'ensuite il y a eu la chute. Mais voilà, la question se pose. Déjà, la question pourrait se poser, quel est le devenir spirituel des Australiens qui vivaient il y a 50 000 ans, des Homo sapiens qui vivaient il y a 50 000 ans en Australie. Est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'ils sont sauvés ou pas? Alors, c'est une question un peu hors sujet, mais c'est la même question qui se pose effectivement à ce moment-là. Si on considère qu'Adam est tout d'un coup devient le chef fédéral de toute l'humanité à un moment donné dans l'histoire. Eh bien, est-ce que c'est instantanément ou est-ce que finalement c'est par diffusion un petit peu que ça va au final hein, amener tous les humains sur la planète à être co-responsables de cette chute? Là, on peut discuter, mais vous voyez les limites d'un modèle. Hein, ils servent de cadre de réflexion, mais voilà.
Bon, alors je pense qu'on va se permettre de laisser la question un peu ouverte. Je crois qu'il y a encore plusieurs questions qui sont restées en attente. Madame là-devant.
Moi, c'est bonjour plutôt pour Monsieur Clark, peut-être, par rapport à l'âme. Je trouve qu'en tant que chrétienne, c'est plus facile de croire la notion de dualisme et qu'en tant que scientifique, c'est plus difficile à croire aussi. La notion de dualisme, ce serait pratique que l'imagerie cérébrale prouve l'existence de l'âme, la démontre. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on ne croit pas à la dualité de l'âme, comment on peut expliquer ce qu'on devient entre le moment où on meurt physiquement et le moment où il y a la résurrection des corps? Même si je ne pense pas que vous avez une réponse vraiment.
Voilà, donc c'est une très bonne question. Et quand j'étais impliqué à Vaux-sur-Seine dans un colloque sur la question de l'âme, moi je présentais une approche assez moniste. J'appelle ma position monisme de deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr une dualité dans le sens que je suis un être conscient. C'est une chose absolument claire que je pourrais autrement nullement nier que je suis conscient. Et que cet aspect de moi est réel, mais que quelqu'un qui étudiait mon cerveau de point de vue objectif et scientifique ne verrait pas l'aspect subjectif conscient, mais il verrait l'aspect de ce que font les neurones, etc. Il verrait aussi mon comportement. Donc, je serais d'accord avec la notion d'une dualité, mais les théologiens de Vaux-sur-Seine n'était pas content de ma position parce qu'il trouvait que, justement, précisément la question que vous soulevez n'était pas satisfaite par ma position parce que j'accentuais le fait qu'il y a une résurrection des corps, donc j'aurai un nouveau corps, donc, même si je ne sais pas exactement quelle sera la nature de ce corps, donc le... Si on veut dire le programme, la structure d'information, ou comment on va l'appeler, qui est le moi actuellement, va être mis dans un nouveau corps. Mais comme vous dites, il y a cette période entre deux où il semble que nous n'avons pas de corps, mais apparemment nous existons. Et pour les catholiques, la question est un peu plus forte encore parce qu'ils croient au purgatoire qui est avant la résurrection des corps. Mais pour moi, bien que je suis d'accord avec vous qu'il y a cet état intermédiaire, comme on l'appelle, et que l'écriture en parle, l'écriture n'en dit pas beaucoup. C'est assez vague. Et il me semble que construire toute une philosophie sur l'état intermédiaire serait un peu exagéré. Donc, quand je dis que je suis moniste, je veux dire que je suis moniste dans mes essais de comprendre le cerveau des gens qui sont conscients. Mais je ne prétends pas, comme neurobiologiste, d'étudier les gens qui sont morts et qui sont dans l'état intermédiaire. Alors, actuellement, en fait, Thomas d'Aquin, tout en étant, je crois que j'ai dit qu'il était moniste, mais les spécialistes ne seraient pas contents avec cela. Ils utiliseraient le mot hylomorphiste, et parce que ce que Thomas d'Aquin disait était que pour les êtres avec un corps sur la terre, donc il avait une position moniste. L'âme était quelque chose intégré dans le corps, pas quelque chose de séparé, style Descartes, qui agissait sur le corps. Mais il réfléchissait aussi aux questions comme Dieu, les anges, les esprits, etc., etc. Et il avait une autre terminologie pour parler de tout cela. Donc, finalement, je ne réponds pas à votre question. J'accepte qu'il y a un flou concernant l'état intermédiaire, mais il me semble que c'est un flou où nous n'en savons pas beaucoup, et je préfère me concentrer sur ce qui est assez clair dans l'écriture que dans le langage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament concernant l'homme. L'homme est considéré comme une unité, pas en termes platoniciennes, et que point de vue neurobiologie, comme vous dites, c'est difficile de soutenir le dualisme du côté Descartes, mais prendre une sorte de compromis comme Henri Blocher et utiliser le mot dualité, j'ai rien contre cela, même si c'est difficile de l'appliquer dans le contexte de la neurobiologie.
Si vous me permettez, de mon avis, il y a deux choses. Un est la Bible nous décrit très clairement Moïse et Elia. Un qui est mort et son esprit, l'autre qui est pas mort mais directement. Merci. Des fois en français c'est difficile. Et c'est assez vague, mais dans ma lecture, c'est clair qu'ils voient, ils parlent, ils réagissent comme les êtres humains. Est-ce que c'est parce qu'ils sont décrits pour nous comprendre, ou est-ce que c'est le cas? On verra un jour. Mais ça donne, dans mon avis, et puis on a des autres experts, beaucoup plus experts que moi, mais qu'il y a une physicalité. Est-ce qu'on peut le comprendre? Probablement pas. Et ça revient, pour moi, ça revient à cette question de l'image de Dieu. Avec tous nos outils scientifiques, il y a les choses qu'on peut voir, il y a l'aspect, dans mon avis, l'image de Dieu qu'on n'est pas capable et vont être jamais capable de voir, comme une mesure scientifique de l'esprit. Donc, je suis assez d'accord avec Peter qu'il y a un monisme qu'on peut mesurer, détecter, quantifier, mais ce n'est pas toute l'histoire, dans mon avis.
Donc, on va prendre encore les dernières questions des mains qui ont été levées et des personnes qui sont derrière, mais pas de nouvelles questions, je vous en prie.
Je me demande si on n'est pas compris par un piège en voulant expliquer toutes ces choses. Le temps, par exemple, bon, nous, on est lié au temps, alors qu'il n'existe peut-être pas, en tout cas pour Dieu. On voit les choses, on les perçoit avec nos instruments scientifiques, nos PET, et nos instruments de plus en plus sophistiqués. C'est des choses qu'on perçoit, mais est-ce que la réalité, peut-être vous qui êtes physicien, pouvez peut-être nous dire que la réalité est peut-être assez différentes. Je veux dire, ce qui compte, c'est que Dieu avait un projet, et qu'il a créé l'homme en son image pour avoir une relation d'amour avec lui, pour avoir des projets pour chacun d'entre nous qui sont très précis. Il semble que ces choses ont été prévues d'avance, étaient déjà peut-être même écrites. Est-ce que le plan de toute l'humanité n'était pas déjà dès l'origine dans le cœur de Dieu, peut-être sous forme, je ne sais pas moi, de particules ou d'arrangement ou d'une matrice qui fait que le but était quand même d'arriver à l'homme intelligent, capable de louer Dieu, puisque la louange, c'est quand même un des buts extraordinaires, de pouvoir louer Dieu. Et c'est vrai que la nature, tout ce que je vois de la nature me pousse aussi à louer Dieu. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer quelque part? Bien sûr, on essaie d'expliquer les choses de la manière la plus rationnelle possible, mais je me suis posé ces questions. Est-ce qu'il n'y avait pas, dès l'origine, toute l'information, en fait, pour arriver à tout ce qui se passe? Est-ce que, bon, on parle de ces pauvres hommes du néolithique sur lesquels l'Esprit de Dieu n'avait pas encore soufflé, mais à l'échelle de Dieu, ils ont de la valeur. Chaque être vivant a de la valeur. Est-ce qu'il y aura des animaux dans le paradis? Bon, je vous pose la question. Voilà.
Est-ce que vous pouvez poser une question?
Non, c'est un ensemble, disons, de réflexion, pas une réponse précise, mais peut-être une réaction quand même.
Je pense que la meilleure réaction pourrait venir de Pierre, qui pourrait vous dire qu'effectivement, on est dans un univers qui apparemment permet à la vie, et telle qu'on la connaît, une évolution de se produire et donc d'aboutir à l'homme.
Oui, effectivement. Bon, au fait, votre question, elle soulève toute la question du surnaturel. Donc, c'est un peu comme si nous étions d'une sorte de sous-ensemble assez restreint, finalement, d'une réalité beaucoup plus vaste qui fait intervenir le surnaturel. Dont Madame fait allusion avec les miracles, avec les anges, avec Moïse et Élie qui apparaissent à la transfiguration. Et c'est lié à la notion du temps aussi. Enfin, c'est saint Augustin qui disait la question de savoir ce qui se passait avant la création du monde n'a pas de sens parce que le temps a été créé avec les trois autres dimensions spatiales, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est vrai que il faut bien être conscient que la démarche scientifique, elle est circonscrite à ce sur quoi l'homme a été établi maître par un Dieu transcendant, mais pas au-delà, quoi. Et c'est vrai que on essaye de concevoir un petit peu ce qu'on peut à partir de la révélation biblique, mais nous sommes nécessairement limités, c'est vrai, quoi. Alors, ce que je dis là peut-être apparaît comme une sorte de renoncement obscurantiste, je ne sais pas, mais enfin, je pense que c'est réaliste de se rappeler constamment que notre intelligence n'est pas... que nous ne sommes pas à Dieu. J'ai un collègue qui disait très justement à quoi ça sert d'être croyant. Eh bien, en particulier, ça sert à savoir que nous ne sommes pas à Dieu. Et c'est une des bonnes réponses, je trouve, que qu'on peut donner. Je crois qu'il y avait encore une question là-bas.
Oui, juste pour une question pour Nicolas Rey. Vous disiez qu'il y avait énormément de ressemblances avec le singe, et c'est vrai, c'est prouvé, il y a les datas et tout. Et en même temps, vous dites qu'on ne descend pas du singe. Je voulais juste, j'ai peut-être loupé ça, ou peut-être vous avez des précisions, ou des données récentes qui diraient ben, d'où vient, enfin, comment a été créé l'homme, je dirais aussi un petit peu du côté scientifique.
Oui, donc il y a souvent une croyance populaire qui persiste, hein, vraiment, qui dit que les gens pensent que on descend, que le chimpanzé ou un autre singe a évolué pour devenir homme. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Comme je disais, on a un ancêtre commun. Alors à quoi ressemblait cet ancêtre commun? On ne sait pas trop. Ça devait forcément être un animal qui ressemblait un peu à certains de nos singes actuels, peut-être. Et puis cet ancêtre commun qui vivait probablement en Afrique, ben, à un moment donné, il s'est séparé géographiquement, en tout cas deux ou plusieurs populations, comme ça se passe souvent. Puis ces populations, en génération après génération, ont été isolées les unes des autres, des mutations sont accumulées, et puis centaines, milliers, dizaines de milliers, millions d'années ont fait que ces deux populations ont évolué d'un côté vers toute la branche des hominidés, donc les Homo erectus, plein d'autres sous-espèces qu'on a découvertes, le Néandertal, ces nouvelles espèces qu'on a découvertes aussi, et puis pour donner à la fin l'homme. Et puis de l'autre côté, ça s'est diversifié en plein d'espèces proto-simiesques, si on veut bien, et puis qui ont abouti à la fin à tous les différents singes qu'on observe actuellement. Et puis la branche, enfin des grands singes, pardon, donc orang-outans, gorilles, etc., qui ont abouti à ça. Donc c'est, on ne descend pas des singes actuels, on a un ancêtre commun, et puis il y a une très grande ressemblance génétique parce qu'on a une histoire évolutive, un ancêtre commun qui n'est finalement pas si vieux que ça en termes d'histoire évolutive.
Justement, je me disais, comme on trouve énormément de fossiles et de squelettes de toutes ces hominidés et de tous ces singes, est-ce qu'on a déjà creusé toute la Terre ou est-ce qu'un jour on va trouver cet ancêtre commun? Parce que des fois je me dis, si on cherche avec tous nos instruments maintenant sophistiqués, on devrait quand même pouvoir le trouver. Est-ce que vous avez l'espoir de trouver cet ancêtre commun ou est-ce que vous pensez que Dieu il a simplement utilisé le même matériel génétique, comme on a ce gène qui est finalement inactif pour le jaune d'œuf et finalement qui n'aurait peut-être pas d'ancêtre commun avec le singe? Quelle est votre position là-dessus?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, mais je vais juste essayer de répondre à la première, en tout cas. Oui, bien sûr, pour plein d'autres exemples, en dehors de l'humain et du chimpanzé, on retrouve des formes anciennes graduellement différentes, des individus qu'on pense être à la base ou ces ancêtres communs de plusieurs branches, plein d'exemples qu'on retrouve. Pour l'homme et ses grands singes, on l'a pas retrouvé. Ça veut pas dire qu'on va pas le trouver un jour, mais il faut bien se rendre compte que le matériel fossile, il est extrêmement difficile à trouver. Hein. Il faut des conditions très particulières pour qu'un squelette puisse être conservé. Très très particulière d'environnement, de sol, de température, d'historique pendant des millions d'années pour pas que ce matériel soit dégradé. Donc on a très très peu de chance finalement de trouver si on veut exactement trouver quelque chose à une période donnée, très très peu de chance de le trouver simplement pour ces raisons-là. Puis il y a plein d'endroits, tous les endroits qui ont été immergés par la mer, plein d'endroits où il y avait un type d'environnement particulier où on sait qu'on retrouvera aucun squelette, simplement parce que c'est l'environnement qui veut ça. Donc, oui, il y a des squelettes qui sont retrouvés tous les jours, mais on n'a pas encore vraiment retrouvé celui-là en particulier. C'est tout ce que je peux dire.